Merci d'écouter France Culture, il est tout juste midi, bonjour à tous. Dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table, mais tout de suite les titres du journal de 12h30 avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les avertissements de Jean-Claude Juncker à la Grande-Bretagne et à l'Autriche à propos du Brexit. Le président de la Commission déclare que le Royaume-Uni devra accepter d'être considéré comme un État tiers en cas de sortie de l'Union. Et sur le scrutin autrichien de dimanche, il affirme qu'il n'y a ni débat ni dialogue possible avec l'extrême droite. En Autriche, le FPE, qui a viré largement en tête au premier tour de la présidentielle, au terme d'une campagne focalisée sur la gestion notamment des flux migratoires. Le candidat du FPE, donc Norbert Hofer, reste favori face à un candidat indépendant pour le second tour dimanche. On sera en ligne tout à l'heure avec Ludovic Piétenu en direct de Vienne. En France, les opposants à la loi travail continuent d'inscrire leur mobilisation dans la durée. Nouvelle journée de mobilisation hier et puis nouveau temps fort de ce mouvement annoncé pour le 26 mai et le 14 juin. On dira un mot du débat autour de la réglementation du salaire des grands patron après les menaces du gouvernement de légiférer sur la question. Le président du MEDEF annonce une révision du code de bonne conduite des entreprises dont nous parlera tout à l'heure Jean-Marc Chardon. Et puis l'armée égyptienne annonce ce matin avoir découvert des débris, des effets personnels des passagers du vol Paris-Le Caire d'Egypt Air qui s'est abîmé la veille, donc hier en Méditerranée, avec 66 personnes à bord. On ne sait toujours pas quelles sont les causes de cette catastrophe. Invité de la séquence interview, Christophe Wawrick, qui est député de la Nouvelle-Autriche, parti de centre-droit, membre du Parlement européen. Voilà pour les titres. C'est à vous Caroline, la grande table.
Avec du théâtre pour commencer cette émission aujourd'hui. Du théâtre en compagnie d'une comédienne qui appartient désormais à la fameuse troupe de la Comédie française et qui incarne en ce moment sur le plateau de la salle Richelieu, une reine tragique, tour à tour violente et majestueuse, l'une des femmes les plus redoutables, à vrai dire, de l'histoire du théâtre. C'est Dominique Blanc, bien sûr, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table. Dominique Blanc, cette femme redoutable que vous incarnez ces jours-ci sur la scène de la Comédie française, c'est Agrippine, dans Britannicus de Racine, que vous jouez jusqu'au 23 juillet dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig avec donc vos nouveaux amis de la troupe du français, puisque c'est votre nouvelle maison. Vous êtes pensionnaire depuis le début du mois. Racontez-nous comment ça s'est passé, comment avec tout ce que vous êtes, avec votre carrière, votre parcours, vous êtes entré à la maison de la Comédie française au mois de mai 2016.
Alors c'est une invitation qui m'a été faite par Éric Ruff, qui venait d'être nommé administrateur, et qui m'a donc invitée à rejoindre la troupe. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai dit oui, beaucoup en raison de la personnalité d'Éric Ruff lui-même. Parce que j'ai beaucoup d'estime et d'admiration pour l'artiste qu'il est. J'ai senti aussi qu'il avait énormément d'ambition artistique pour cette maison qu'il connaît depuis 20 ans. Où il est très aimé depuis 20 ans. J'ai pas entendu une seule personne dire quoi que ce soit contre lui. Je pense qu'il a plein de projets et ça m'est apparu comme une nouvelle aventure théâtrale, vous voyez. Donc je me suis dit, tiens, ça doit être assez formidable de faire partie de ce nouvel équipage, en quelque sorte, de cette nouvelle aventure. Il est le capitaine du vaisseau. Donc j'ai dit oui, j'avais des engagements qui étaient prévus, donc j'ai été jusqu'au bout de ces engagements-là. Et puis en même temps est venue la proposition d'Agrippine et la proposition de travailler avec Stéphane Braunschweig. Tout est arrivé en même temps en fait.
Mais Dominique Blanc, quand on entre à la Comédie française et qu'on a la carrière qui est la vôtre, on entre quand même comme pensionnaire parce que la Comédie française, il y a les pensionnaires et puis il y a les sociétaires ensuite. Là, vous vous destinez à une longue carrière maintenant au sein de la société française. Alors, ou c'est une expérience que vous souhaitez temporaire?
Alors, je ne sais pas encore. Moi, j'ai signé pour deux ans.
Vous voyez.
Ça y est, je suis déjà partie. Non, j'ai signé pour 2 années. Ça me paraît un bon, comment dire, un bon temps pour se connaître mutuellement. On ne connaît les gens que quand on travaille avec eux. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. Donc, une fois qu'on est sur le plateau, en somme. Donc, je trouve que c'est un bon temps pour se rencontrer et savoir si on a envie de continuer ou de pas prolonger, en somme.
Vous parlez d'Éric Ruff,
oui,
qui a été votre partenaire, notamment dans le Phèdre de Patrice Chéreau, et qui jouait Hippolyte quand vous jouiez Phèdre, Dominique Blanc. Vous parlez d'Éric Ruff, mais Éric Ruff et la Comédie Française, là aussi c'est récent, puisqu'il a été nommé administrateur il y a seulement quelques mois,
oui,
à
oui,
peine
tout
une
à
année.
Fait.
Est-ce que pour vous, entrer à la Comédie Française, en dehors du fait que c'est lui qui administre les biens de cette maison aujourd'hui, c'est aussi pour vous un rêve, une consécration? Est-ce que c'est de cet ordre-là ou non, c'est autre chose?
Disons que c'est des mots rêve et consécration dont je me méfie beaucoup. Ce qui m'a paru, si vous voulez, c'est que c'est un lieu d'excellence. Je pense que c'est un lieu d'excellence du texte, du répertoire, du travail. On ne se rend pas compte, en tout cas moi je ne m'étais pas rendu compte à quel point ces comédiens de la troupe travaillent énormément. Ils répètent à partir de 13h avec ce fameux système de l'alternance. Ils jouent ensuite à 20h30. Ils ont souvent 3-4 rôles par saison, ce qui est vraiment considérable. Donc c'est une façon d'aller au plus près du travail et de son intensité, voyez. C'est ça que j'y ai vu. C'est-à-dire excellence des partenaires, excellence du temps de répétition, du temps de création, du temps de reprise. Voilà, c'est comme un plus dans l'excellence du travail. Ça m'est apparu comme ça. Donc je me suis dit, tentons et fonçons.
Merci bien de foncer. Dominique Blanc, Éric Ruff était venu au micro de la Grande Table en 2014,
oui,
quand il avait été nommé à la tête de la Comédie Française. Il était venu nous parler de ce que représente cette institution aujourd'hui. Écoutez-le.
La force de cette maison, elle est évidente. C'est sa troupe et ses ateliers. Voilà. Il y a des acteurs à la Comédie Française. C'est la seule troupe de France. Ça n'est pas rien de le dire parce que c'est une exception en France et c'est un exemple. Je trouve, en Europe du Nord, il y a des troupes absolument partout, dans toutes les grandes villes de province. En France, ça n'est pas le cas. Et c'est une force, un matériau humain absolument extraordinaire que d'avoir plus de 60 acteurs qui sont censés représenter l'humanité entière. Donc c'est une force extraordinaire. Le danger de cette maison, c'est qu'elle est aimantée vers son passé naturellement, parce que c'est une grande histoire, parce qu'il y a des pampis, du velours, des atlantes, des ors, parce qu'il y a le fauteuil de Molière, parce que les gens viennent aussi pour une certaine pensée d'une tradition culturelle française. Cette maison appartient au public bien, bien au-delà du cercle des abonnés. C'est pour ça qu'on ne touche pas à la Comédie Française, parce que c'est un symbole culturel français, comme le Louvre, comme l'Académie Française. Voilà, c'est une institution, on sait que là il y a une maîtrise, il y a un temple du savoir, du dire, voilà, de l'expression de tous les répertoires de la grande langue française, de l'alexandrin, du vers libre, de la prose, et c'est une maison à nul autre pareil en France.
Dominique Blanc, il a tout dit ?
Ah oui, il a tout dit. Je pense que c'est un trésor national, voilà. Ça appartient au patrimoine. Il y a quelque chose de la mémoire, des mémoires du temps passé. Ça, c'est quelque chose de très émouvant quand on entre dans cette maison-là.
Émouvant, mais pas intimidant.
Aussi intimidant, si, parce que tout d'un coup, on entre vraiment dans une très grande institution, si vous voulez. Donc,
dans un temple, c'est le mot qu'il a utilisé.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose de sacré à l'intérieur de cette maison. Donc, c'est intimidant, bien sûr. Moi, j'y suis pas depuis très très longtemps, vous voyez. Je pense qu'il va me falloir du temps pour m'adapter. C'est normal en même temps. Mais dès qu'on se met à répéter, on descend au sous-sol dans ces très belles salles de répétition, et puis on est là à tenter de sculpter, de polir l'alexandrin et le vers pour en rendre la grâce et l'intelligence, j'ai le sentiment que je suis au plus près de mon métier, vous voyez. C'est pour ça que j'ai dit oui.
Là, Dominique Blanc, vous incarnez Agrippine donc dans un texte de Racine. Est-ce qu'il y a des textes ou des auteurs en particulier que vous aimeriez beaucoup jouer?
Ah oui. Alors, j'ai pas de rôle précis. Quand j'étais En adolescente, j'avais deux rêves, c'était Phèdre et Qui a peur de Virginia Woolf. Phèdre, c'est merveilleusement fait. Qui a peur de Virginia Woolf, je crois que Dominique Valadier l'a incarné de façon splendide cette année, mais c'est un rôle qui m'a toujours fait rêver aussi. Autrement, j'ai pas d'autres rêves de rôle. C'est plutôt des envies d'auteurs, contemporains par exemple, comme Lagarce, que je trouve être un auteur magnifique. Duras, que j'ai déjà fait, mais qui reste encore complètement à découvrir, et beaucoup d'autres auteurs que je ne connais pas, d'auteurs vivants, et puis aussi évidemment du répertoire que je ne connais pas entièrement non plus. J'étais très heureuse de retrouver Racine parce que, enfin c'est un peu vaniteux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'être un peu chez moi, ce qui est bon. Évidemment, Racine appartient à tout le monde, mais Phèdre, c'était une pièce sur la passion amoureuse. Là, on a l'impression que c'est un auteur complètement différent parce qu'on est dans une pièce politique. Donc ça c'est passionnant d'aller travailler l'autre versant d'un auteur. Voilà, mais j'aimerais aussi jouer Tchekhov, j'aimerais jouer Claudel, je connais très très mal, et puis des auteurs plus anciens, et puis tout est à découvrir. Je crois que à l'intérieur de cette maison, il y a des gens qui sont là aussi pour aller chercher des trésors enfouis, voyez.
Alors, faudra renouveler le contrat de 2 ans, hein, Dominique.
je reviens dans 2 ans, je vous dirai ça.
Je vois tous vos détours. Vous êtes un ingrat. Vous le fûtes toujours. Dès vos plus jeunes ans, mes soins et mes tendresses n'ont arraché de vous que de feintes caresses. Rien ne vous a pu vaincre. Et votre dureté aurait dû, dans son cours, arrêter ma bonté. Je suis malheureuse. Et par quelle infortune faut-il que tous mes soins me rendent importune? Je n'ai qu'un fils. Ô ciel qui m'entends aujourd'hui, t'ai-je fait quelques vœux qui ne fussent pour lui? Remords, crainte, péril, rien ne m'a retenu. J'ai vaincu ses mépris, j'ai détourné ma vue des malheurs qui dès lors me furent annoncés. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous régnez. C'est assez.
Dominique Blanc, la pièce de Racine s'intitule Britannicus, mais à vrai dire, et on l'entend dans cet extrait où Agrippine s'adresse à Néron, son fils qui est au pouvoir, c'est une pièce qui porte presque plus sur Agrippine, sur sa disgrâce, comme le dit Racine dans sa préface, que sur Britannicus, qui est le rival amoureux de Néron, sur Agrippine, mais aussi sur ce Néron, en d'autres termes, sur une mère et son fils, non?
Oui, je pense que la relation entre la mère et le fils est au cœur de toute la pièce. C'est un fils qu'elle a eu lorsqu'elle était très très jeune, un fils qu'elle a complètement instrumentalisé pour pouvoir exercer son pouvoir à travers ce fils qui s'y est soumis.
Instrumentalisé.
C'est le mot, oui. Je pense que c'est deux monstres à venir. Néron va devenir le monstre qu'on connaît. Elle l'est plus ou moins déjà devenue. C'est une passion folle du pouvoir, une soif démesurée d'ambition politique. C'est vraiment quelqu'un qui aime le politique dans le sens le plus, comment est-ce qu'on peut dire, le plus profond du terme. C'est une manipulatrice, c'est une ambitieuse. Cette ambition, elle l'a eue très tôt. Je pense qu'elle avait une vingtaine d'années. À partir du moment où elle a eu son fils, elle a su qu'elle voulait le mettre au pouvoir pour pouvoir régner à travers lui.
Et tous les moyens étaient bons dans cette scène cruciale où elle raconte à Néron comment il a pu arriver là où il est, c'est-à-dire à la tête de l'Empire. Il y est depuis 2 ans. Elle raconte des horreurs.
Absolument.
Et elle a été prête à tout.
Prête à tout.
Et alors, quand je dis « elle raconte des horreurs », donc je m'adresse à vous, Dominique Blanc, qui l'incarnait. Vous le dites avec une froideur, un recul, une distance qui rend le monstre encore plus froid qu'Agrippine. Ce jeu, ce jeu qui est le vôtre, avec une douceur et un calme olympien, très, très à distance au fond de la grandiloquence racinienne. Comment l'avez-vous travaillé ?
Je pense que Stéphane Braunschweig, dès le début, nous a dit qu'il avait envie de... comment dire Il ne voulait pas de théâtralité, il ne voulait pas non plus d'emphase, il voulait que le vers soit dit de la façon la plus juste, la plus pleine et la plus précise. C'est-à-dire que le sens parvienne toujours, l'intelligence aussi, et qu'on se méfie de tout ce qui pourrait être périphérique et qui pourrait, dénaturer le vers finalement. C'est la raison pour laquelle il a eu envie d'un décor très très contemporain, de ce lieu de pouvoir qui pourrait être... la Maison Blanche, l'Élysée, le Kremlin, peu importe. Et dans ces lieux de pouvoir, tout est souvent beaucoup plus chuchoté que hurlé, au fond. Et les monstres sont des gens qui parlent d'une façon très, très douce et très sympathique.
Et c'est facile de faire ça, de dire les alexandrins de Racine sans emphase?
Non, c'est pas forcément facile parce que finalement, on a une tendance, au lyrisme, peut-être.
Donc, la déclamation.
Voilà. Donc, on a traversé des périodes, je parle pour moi, des périodes de doute où on a le sentiment qu'on n'y parviendra pas, qu'on n'arrivera pas, au fond, à donner cette espèce de rigueur, de froideur et en même temps de beauté du vers, parce qu'il s'agit de le rendre aussi beau qu'il est écrit. Donc, moi, je suis passée vraiment par des grandes périodes où je ne savais plus. Et puis finalement, à force de se cramponner et de s'y tenir, on arrive à rendre cette vérité-là. Je crois qu'il avait envie de vérité, voilà. Ses modèles, c'était des séries télévisées comme House of Guards ou comme Borgen. Et au fond, comme le décor finalement est perçu assez vite, et comme nous sommes tous en costume contemporain, je crois que toute l'attention et toute la concentration du public est sur le texte. Et c'est ça qui est passionnant. Au fond, il avait envie d'un thriller glacé, et c'est exactement ce que c'est devenu. Nous connaissons tous, plus ou moins, quels que soient nos âges, l'issue de la pièce, et on sait que ça finit par la mort de Britannicus. Néanmoins, on se laisse prendre par ce climat assez terrible, finalement, où les gens s'entretuent plus ou moins. Évidemment, c'est au XVIIe siècle, donc ça se passe pas dans l'Antiquité. Mais dans l'Antiquité, c'était comme ça. Il y a un livre tout à fait passionnant qui est sorti il y a quelque temps, qui est une biographie d'Agrippine, qui a été écrit par Virginie Giraud et qui est chez Taillandier. Et elle explique dans ce livre que au tribunal de l'histoire, Agrippine a toujours eu tort, que ce soit Tacite ou Suétone, qui étaient de vrais et de bons misogynes. Finalement, elle est toujours présentée comme quelqu'un qui a fait des horreurs, mais qui était, entre guillemets, une salope. C'était quelqu'un de beaucoup plus intéressant que ça. Évidemment, elle a tout fait pour parvenir au pouvoir, mais c'était quelqu'un qui avait un vrai génie politique.
C'est un vrai animal politique.
Voilà.
On assiste à la naissance d'un animal politique par un autre animal politique, en
absolument.
Quelque sorte.
Et son fils deviendra le Néron qu'on connaît. Mais elle, c'est grâce à des historiens anglo-saxons, notamment dans les années 90, qu'à force d'étudier au plus profond avec tout ce qu'il y a maintenant de numismatique, scientifique, enfin qu'on peut encore plus approcher l'Antiquité et la période d'Agrippine et de Néron, qu'on se rend compte justement de ce génie qu'elle avait. Elle avait mis Sénèque et Burrus à la politique nationale et elle s'occupait de la politique internationale. C'était vraiment un cerveau, cette femme.
Oui, ce que n'est pas nécessairement Néron dans Britannicus, on le voit.
Non, ce que ne sera pas Néron.
Néron est présenté, là il est joué par le formidable Laurent Stocker.
Absolument.
Néron est un personnage qui est d'abord mal aimé,
oui,
peut-être par cette mère redoutable. Et très influençable, c'est un esprit faible qui écoute Burrus un temps et puis qui va se laisser convaincre par Narcisse,
oui,
le traître.
Oui.
On voit un Néron un peu perdu, on sent qu'il est à un moment où il est très populaire, 2 ans de pouvoir, mais il est aimé de son peuple.
Très aimé.
Et on sent qu'il peut tout à fait basculer et se transformer en tyran, ce qu'il va effectivement devenir. Il n'a pas le génie malgré tout de sa mère.
Oui, et puis je pense qu'ils ne sont pas parvenus à s'aimer l'un l'autre, finalement. Donc, il y a une espèce de grande distance entre les deux. Et c'est vrai que Néron tel que le joue Laurent Stocker, est d'une extrême fragilité. C'est ça qui est beau. Et on sent le fauve à venir, entre guillemets. Et effectivement, il paraît très très vulnérable.
Brigitte Jacques-Wagemann a monté, beaucoup de metteurs en scène ont monté ce Britannicus de Racine, mais Brigitte Jacques-Wagemann l'a monté en 2004, c'était au Vieux Colombier, avec Alexandre Pavlov en Néron et Dominique Constanza en Agrippine, et elle a fait deux personnages hantés par une relation incestueuse, l'emprise aussi du psychologique sur le politique. Stéphane Braunschweig le poursuit, mais pas au point de rendre cette relation incestueuse. Écoutez Brigitte Jacques-Wagemann, c'était en 2004, c'est une archivina France Culture.
Agrippine, telle que nous la montre Racine, elle est en fin de parcours là. C'est-à-dire en fait, quelque chose lui a échappé, son fils lui échappe, et donc le pouvoir. Voilà. Et c'est elle qui a entièrement contribué à le faire. Mais elle l'a fait par des moyens totalement féminins, c'est-à-dire en séduisant le père de Britannicus, en ayant probablement des relations avec Pallas, enfin avec un affranchi monstrueux, enfin, donc par des moyens très, très féminins, comme toujours un peu raconté, puisqu'elle ne peut pas avoir le pouvoir elle-même, mais Rome veut un maître et non une maîtresse, lui dit Néron, donc c'est par le biais de sa séduction, enfin, qu'elle a réussi à s'approcher au plus près du pouvoir et en fait à essayer à l'obtenir. Mais enfin, elle l'a pas complètement. Et là, ce qui est très beau dans Racine, c'est qu'en fait, elle en est, dépossédée. Mais elle est surtout dépossédée de son fils. Moi, j'ai mis l'accent, si vous voulez, réellement, sur la relation de la mère et du fils, sur la relation de possession. J'ai le sentiment que c'est plus la possession sur l'autre, toujours, l'autre qui importe à Racine, proprement, que sur la possession du pouvoir lui-même.
Dominique Blanc.
Alors, Stéphane Braunschweig voulait axer l'intrigue beaucoup plus sur le politique et peut-être pas tant sur la relation incestueuse. Et on est allé dans cette direction. C'est une pièce qui est compliquée parce qu'il y a énormément d'intrigues comme ça qui s'entrenouent, si j'ose dire. Et son idée était de rendre le tout extrêmement limpide et clair. La relation incestueuse, proprement dit, c'était pas forcément quelque chose qu'il avait envie d'essayer.
Non, c'est vrai que on ne le sent pas, mais on sent en revanche ce que dit Brigitte Jacques-Wagemann, c'est le sentiment malgré tout de dépossession, dépossession de son fils, mais dépossession du pouvoir. Et c'est là sans doute la force de cette mise en scène, vraiment sa réussite à mon sens, et la vôtre, Dominique Blanc, c'est qu'on voit bien que les choses sont liées. C'est le pouvoir au sens large, c'est-à-dire le pouvoir politique, avec ses vices et ses vertus, comme vous l'avez dit, mais aussi le pouvoir sur l'autre, malgré tout. Ah oui. Agrippine, elle exerce un pouvoir sur l'autre. Et vous arrivez très bien à jouer sur l'ambiguïté qui finalement correspond à toutes les interprétations d'Agrippine pour savoir si elle a mis son fils au pouvoir, qu'elle voit l'empereur s'éloigner d'elle, et donc elle craint de ne plus rien être.
Absolument.
C'est vrai. Oui. Mais c'est vrai aussi qu'on pourrait voir Agrippine comme... dès le début, jalouse de l'amour que Néron porte à Junie. Il fait enlever Junie au début.
Oui.
Et Junie, c'est la femme que Britannicus aime et qui aime Britannicus. Et on pourrait voir cette relation de mère à fils comme intimement liée au pouvoir. Et j'ai le sentiment que la mise en scène de Stéphane Braunschweig insiste sur toutes ces parties qui sont les différentes facettes d'une belle bulle à facettes ou d'une boule à facettes, qui est la facette du pouvoir, mais pas politique d'un côté, amour de l'autre, quoi.
C'est intimement intimement mêlé. D'ailleurs, dans cette fameuse scène de l'acte 4, ce qu'il voulait, c'était justement qu'on ait cette intimité entre une mère et un fils, où on a le sentiment qu'on est dans l'intimité de ce couple-là. Mais la domination est totale, la manipulation bien évidemment aussi, et puis l'ambiguïté. Je crois que c'est ça qui fonctionne merveilleusement bien, c'est que tout est effectivement étroitement liées.
Sans avoir choisi une seule interprétation,
une seule direction.
Est-ce que vous diriez aussi qu'il y a une forme d'ingratitude, de sentiment d'ingratitude en tout cas chez Agrippine,
ah oui.
qui a quand même tout fait, elle l'a dit au début, j'ai fait ce que j'ai pu, vous régner, c'est assez, mais elle a tout fait pour mettre son fils au pouvoir, et ce fils s'éloigne d'elle, donc elle perd le pouvoir, elle perd le fils, mais
oui.
bon...
Ah ben oui, oui, il y a de l'ingratitude, et puis il y a aussi de la mauvaise foi, et puis il y a aussi du mensonge, et puis il y a aussi formidablement de vanité. Au début de l'acte 5, elle est persuadée qu'elle a rétabli la paix entre les deux camps, et qu'au fond, le pouvoir lui est revenu, et c'est vraiment la vanité des vanités à ce moment-là. Elle est totalement aveuglée, et moi, bon, c'est passionnant d'aller au plus obscur de l'humain. Chaque soir, on peut essayer d'inventer d'autres pistes, mais la ligne directive, c'est ça.
Dominique Blanc, si je ne m'abuse, on peut considérer que vous avez commencé, vous, un nouveau cycle, un cycle qui porterait sur les femmes de pouvoir. Je pense à Madame de Merteuil, avez joué récemment dans Les Liaisons dangereuses. Vous avez un nouveau goût pour les femmes redoutables.
Écoutez,
on ne vous a pas connue dans ces
rôles-là.
Sous cet angle. Oui.
C'est une année magnifique parce qu'effectivement, sans avoir rien prémédité, ces deux dames, parce que c'est vraiment des dames majuscules, la marquise de Merteuil et Agrippine, sont venues cette même année et se sont même, comment on peut dire, pas catapultées, mais entrechoquées, parce que tout ça était intimement mêlé. Et finalement, l'une m'a inspirée pour créer l'autre. C'est des femmes, comment dire, oui, des femmes de pouvoir qui se sont affranchies elles-mêmes et qui ont su inventer leur propre liberté. Donc c'est toujours très grisant d'incarner des personnages comme ça. Et puis avec, en même temps aussi, pas mal de solitude et puis beaucoup de noirceur, ce qui est passionnant à défendre.
D'Agrippine, l'ouverture d'Agrippina de Handel, Dominique Blanc, mais vous ne perdez pas dans ce nouveau cycle que vous commencez, vous ne perdez pas le plaisir, bien sûr, de dire les textes, parfois de lire les textes. On connaît votre goût pour les romans d'Annie Ernaux, vous étiez même venu nous en parler ici, à la grande table. Vous allez lire le dernier livre d'Annie Ernaux, Mémoire
voilà.
de fille.
Tout à fait. C'est un livre qui est sorti début avril. Que je trouve assez extraordinaire. Et c'est de nouveau l'écriture incisive et exigeante d'Annie Ernaux. Donc, rien à voir avec l'Alexandrin. Et en même temps, c'est formidable de pouvoir, travailler, entre guillemets, ces deux matières-là, si opposées et si différentes.
Britannicus de Stéphane Braunschweig avec Dominique Blanc, avec Clotilde Beiser, Laurent Stocker, Hervé Pierre, Stéphane Varupen, Georgia Scalette et d'autres encore. C'est jusqu'au 23 juillet à la Comédie Française. Et les textes lus par vous, Dominique Blanc, Daniel Arnaud, le texte puisque c'est Mémoire de fille, ça sera le 30 mai à Paris, au Reed Hall, au Centre Américain. dans le cadre de Textes et Voix, et le 25 juin au Capitole à Toulouse dans le cadre du Marathon des mots. Merci beaucoup d'être venu à nouveau à la Grande Table.
Merci à vous.